Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Blanc au micro. Oui, c'est la dernière de la semaine, c'est vendredi, en première partie d'émission. Juste après avoir planté le décor de l'émission, je vais recevoir Jojo Turenne qui va nous parler de son nouveau livre « Haïti, chant de liberté » aux éditions Planète Rebelle. Voilà, elle va nous parler de la collaboration qu'elle a eue avec cette maison d'édition. Je pense bien que c'est la deuxième, si je ne me trompe pas, ou bien plusieurs collaborations qu'elle a eues avec cette maison d'édition. Et puis ensuite, j'ai quelques sujets dont je vais parler aussi, les nouveaux thés littéraires, et puis du Musée des Beaux-Arts de Montréal, et puis quoi encore, là, Journée de la Culture 2022, la programmation qui est en ligne, je vais en parler. Et en deuxième partie de mission à 16h30, je vais recevoir le chroniqueur de comic book américain, bien sûr, Christian Racasse, qui vient à nous parler de voilà du comic book, les origines, les manches, tout ce qu'il convient avec le héros avant l'arrivée du super-héros, ces personnages héroïques qui vont aider à former le super-héros à la fin des années 30. C'est de ça que je vais parler avec lui à partir de 16h30. Là, c'est maintenant Jojo Turenne qui va être avec moi pour les prochaines minutes. On va parler de son nouveau livre, Haïti, chant de liberté. Bonjour Jojo Turenne.
Bonjour Fulgence.
Comment vas-tu toi?
Ah ben ça va bien, c'est le bonheur.
La chanceuse qui vient de faire un petit tour au Sénégal.
Oui. Ah oui, pour finir le livre d'ailleurs.
Waouh. Alors tu vas nous parler de ce livre, histoire. Mais Haïti, chant de liberté, Haïti, histoire, raconte. Écoutez, quiconque sait qu'il ne sait pas saura. Jojo Turenne, insulaire de plusieurs horizons, raconte l'île qui l'a vu naître, Haïti. Elle dépose dans l'écriture des voix, des pleurs, les cris, les espoirs, les chants de ses ancêtres, de ses vieux os. C'est l'histoire d'une lutte collective qui mènera à la création de la première République noire, une histoire d'amour, une révolution. La conteuse part de sa parole de nuit, imaginaire et clandestine pour naviguer vers une parole de jour, peuplée d'authentiques héros et héroïnes, bien sûr. Parcours complexe, voilà, car la parole de jour a souvent été portée par les conquérants, les étrangers, surtout les hommes. Fruit d'un long travail de recherche de collectage, Haïti, c'est bien A-Y-I-T-I, Haïti. Voilà, chant de liberté explore notre rapport à la mémoire coloniale et dit l'urgence de raconter soi-même son histoire. Jojo, qui est conteuse, auteur, autrice pour d'autres, pour l'autre, pour les autres, poète, comédienne, performeuse et des ad, la parole, formatrice, conférencière, les mots, ça la connaît. Avec Haïti, elle donne ce nouveau défi, écrit l'histoire de son pays d'origine. En pointant la parole du jour collée sur la réalité, elle déconstruit l'histoire de la première République noire en adoptant les perspectives d'un peuple d'abord esclavagisé, puis combatif jusqu'à la liberté. Anticolonialiste, jusque dans son vocabulaire, chant de liberté, aborde des thématiques qui peuvent toucher un lectorat et plusieurs horizons. Alors, comment l'idée est venue de prendre ta plume, votre plume, et de dire, tiens, je mets ça sur papier, sur blanc, pour essayer de parler un peu de ça, c'est chant de liberté. D'où l'idée est venue?
D'abord, merci Fulgence de me recevoir. C'est un bonheur à chaque fois de partager le micro avec toi. On se tutoie, je pense, oui.
Oui. Je vais me permettre aujourd'hui de te tutoyer en ondes. Toi, tu peux me tutoyer, tu fais comme tu veux. Voilà, je vais te tutoyer aussi, ça va.
D'accord, c'est bon. Alors, Fulgence, c'est que il y a quelques années, l'ambassade d'Haïti au Canada m'a téléphoné pour me demander de raconter dans un petit 10 minutes l'histoire d'Haïti pour commémorer le 1er janvier, fête nationale d'Haïti qui célèbre l'indépendance du pays.
Oui.
Alors, j'ai pris panique parce que, premièrement, raconter l'histoire d'Haïti, c'est tout un défi.
Oui.
On essaie des extraits, comme tout le monde, les moments victorieux, mais mettre ça bout à bout, c'était quelque chose.
Tu t'es demandé pourquoi moi, Jojo Turenne.
Pourquoi moi, parce que je suis la conteuse. mais pourquoi moi maintenant, je ne suis pas prête. Et donc, j'ai dû aller chercher des sources qui étaient certaine de ma famille, donc je suis allée surtout de ma mère qui m'a expliqué le pourquoi du comment. Et bien entendu, il y avait aussi mon père.
Oui.
Parce que ces deux-là mis ensemble, je les appelle les deux encyclopédies.
Ah oui.
Oui, parce que mon père m'inspire toujours, et tout comme ma mère qui est toujours là à mes côtés.
Oui.
Alors, c'est venu comme ça. Et ensuite, j'ai réalisé que plus... oui, ça s'est bien passé cette journée-là. 10 minutes.
Oui.
Et à l'issue de ces 10 minutes, il y a un petit garçon de 7 ans qui m'a dit « Oh, j'aimerais tellement ça lire ça dans un livre. J'ai beaucoup aimé ton histoire. »
Oh.
Pour lui, c'est une histoire d'aventure, là.
Oui.
Comme Astérix, Obélix.
Oh.
C'était une histoire, quoi. Et puis, ensuite, plus tard, 2-3 années plus tard, je suis allée en tournée à l'île du Prince-Édouard, mm-hmm. et je devais raconter des contes, mes contes de l'imaginaire.
Oui.
Un jeune qui n'avait pas la langue dans sa poche, enfin aucun filtre, mm-hmm. il est autiste, donc aucun filtre, et puis il me dit, tu viens d'Haïti, Haïti là, est-ce que c'est le pays où il y a eu l'esclavage? J'ai dit oui, il y a eu l'esclavage, mais il y a eu aussi un combat menant à la liberté. Ça t'intéresse? Il me dit, ouais, je dis, ça vous intéresse, tout le monde? Tout le monde m'a dit, ouais. Ah, comme ça, sans préparation, de mémoire,
oui.
je racontais en bout détaché mon histoire. Mm-hmm. Et à l'issue de ce compte-rendu, il y en a qui m'ont dit, moi, ça m'interpelle, moi aussi, nous, parce que c'est des Acadiens.
Mm-hmm.
Oui, moi, j'ai entendu dire tel épisode et tout. Et c'est là où je le savais un peu, mais là, je l'avais en plein visage. Lorsqu'on se raconte, on met la table pour que l'autre aussi se raconte. On met la table pour qu'il y ait une communication, une communion. Et l'histoire d'Haïti, qui est si mal connue, même par moi, jusqu'à il y a quelques années, mm-hmm. eh bien, j'ai dû faire un saut périlleux avant,
oui.
vers des spécialistes qui connaissent très bien l'histoire,
oui.
et pour aller chercher les détails, pourquoi ça s'est passé comme ça, et comment. Et puis, ben voilà, c'est de là qu'est venue l'idée, puis j'ai installé une méthodologie avec des spécialistes en histoire, une psychiatre, pour que ça fasse du bien à l'âme. Il faut pas que, en fermant le livre, on dit « Ouais, ils nous ont fait ça !» Il faut pas
voir... C'est pas dans ce but-là, c'est pas là que tu voulais aller.
Non, c'est pas un os de travers. Mmh. Ah, donc c'est ça. Nous sommes héritiers de tout ça, mais également, nous sommes héritiers, héritières de cette force, de cette liberté, mais également de cette tendresse, de cette solidarité et puis d'amour. On oublie tout le temps de parler de ça.
Oui.
Donc, j'ai dit, moi, j'aimerais écrire un livre pour raconter, pour mettre sur place le fil narratif. D'abord, on n'est pas né esclave. On ne naît pas esclave. Et donc, une quête pour la liberté, c'est une quête tout à fait normale,
oui.
noble, mmh. et c'est la survivance. Et puisque je suis conteuse, au passage, j'ai dû illustrer la nécessité de passer par l'imaginaire pour supporter le quotidien. Et c'est là où j'ai opposé la parole de jour et la parole de nuit.
Mmh.
Et l'idée de mettre ce livre-là en chant, d'abord le mot « chant » qui fait référence lorsqu'on écoute au chant de travail,
oui.
mais aussi les chansons. J'ai eu une très grande aide de Claude Dauphin, ethnomusicologue. D'ailleurs, la psychiatre dont je parlais tout à l'heure, c'est Marie-Claude Leclerc. Elle est extraordinaire.
Mm-hmm.
Et toutes des personnes qui ont eu cette complicité avec moi. Le projet est devenu un projet pluriel.
Oui, et on a maintenant, mais non, ce n'est plus ta propriété, c'est la propriété à nous les lecteurs.
Ouais, ça ne m'appartient plus.
Non, ça ne t'appartient plus. En cherchant, j'ai fini par trouver ici et là suffisamment de bribes, bien sûr, pour raccommoder mon histoire d'origine Haïti, mon histoire, celle qui aurait été mienne si seulement au fil du temps. des garants, garantes de l'histoire, avaient su, avaient pu la préserver et la rapporter au jour le jour, en plein jour. Mon histoire, frappée en plein visage, m'a chaviré. Cette histoire naît en Afrique. Elle commence comme un conte truffé de péripéties avec des héros et héroïnes plus grands que nature. C'est beau, hein?
C'est la vérité. La vérité a pour qualité d'être vrai. Donc, quand on parle de quelque chose avec vérité, souvent, ça sonne beau.
Oui. Oui, c'est vrai.
Ça sonne joli.
Oui.
C'est comme, oh tiens, j'ai pas fait un effort pour aller trouver ces mots-là. Je suis allée les puiser dans le bassin de la vérité.
Oui.
Ouais. Je dois quand même souligner, Fulgence,
oui,
la complicité que j'ai eue avec mon éditrice littéraire, Adèle Tourte. D'ailleurs, toute la maison d'édition Planète Rebelle a été extraordinaire dans cette aventure. Parce que j'ai fait quoi? Peut-être 5 ans et demi toute seule. Avec des moments de correction et tout, mais Planète Rebelle en tout dernier, avec Adèle Tourte comme éditrice littéraire,
oui.
C'était comme si j'avais un gâteau. Et là, on est venu déposer la cerise. Ah, c'était extraordinaire.
C'est ça la belle collaboration, la complicité entre l'auteur, entre l'éditeur et la maison d'édition et l'auteur. Oui.
Oui. Avec Anne-Laure Jean pour l'infographie.
Ah oui, il profite de l'antenne pour leur envoyer ce petit coucou,
oui,
là.
Non, Anne-Laure Jean, extraordinaire pour l'infographie. Judith Rod pour les illustrations, mais c'est tellement, tellement ça. C'est comme si c'était en écho, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de redite. On voulait pas dire une chose en parole et puis on la voit en image. On voulait qu'il y ait plusieurs dialogues. Et puis, mon Dieu, la maison Sidika avec Franz Voltaire et toute l'équipe au niveau de l'histoire, tous les historiens.
Le grand Franz Voltaire.
Le grand, il est irremplaçable. Ouais. Jean Ledan en Haïti, qui est spécialiste de la période précoloniale, Patrick Tardieu qui travaille toujours au Sidika, Eddy Lubin, un ethnologue basé en Haïti, lui m'a donné des documents d'archives incroyables, c'était sur place. Il y a mon grand ami Frenet Surfin qui m'a donné des documents bibliographiques introuvables.
Wow. Pour
compléter ça. Mm-hmm. Et au niveau d'échange, je l'ai déjà dit, Claude Dauphin, mais il y a aussi le tambourinier Godson Deli qui a fait des recherches pour moi sur demande. Il est, parce qu'à un moment donné, Haïti était bloqué, entre guillemets. Donc lui, il est allé sur place dans les endroits de cérémonie, dans les lacous, pour aller puiser des chants pour moi. Et j'ai des grands lecteurs, grandes lectrices. Et j'ai mes jeunes lecteurs, lectrices qui se reconnaissent. Je nomme leur prénom Audrey, Chadé, Ashley, Ricky, Xavier, Cédric, Thierry. Oh, mais leur écoute. Je leur lisais de longs passages.
Oui.
Là, ils me disaient, ouais, mais t'as parlé d'un truc, là, on comprend pas. Ben, c'est évident, je parle des beaux salles. Mais c'est quoi les beaux salles? Vous connaissez pas les beaux salles? Non, on n'a même jamais entendu ce mot-là.
Il a fallu que tu expliques tout ça.
Voilà. Mm-hmm. Et ce sont de grands lecteurs, de grandes lectrices, jeunes, mais elles lisent beaucoup.
Oui, mais ça serait trop prétentieux de la part de chacun de nous de dire que je sais tout, hein?
Oui, c'est ça. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que lorsqu'on me rapportait ça, je me suis dit, mais si vous ne comprenez pas, les lecteurs non plus ne sauront pas, puisque c'est pour votre groupe d'âge que j'écris.
Oui.
Donc, ça m'amenait faire d'autres recherches, un autre chapitre, un autre extrait, un autre chant, une autre virgule,
oui,
un autre détail. Ah là là, donc au bout de 6 ans et demi, j'ai eu aussi beaucoup d'aide au niveau littéraire proprement dit.
Mmh.
Notamment Joubert Satir m'a beaucoup aidé pour la justesse des mots, mais si tu dis ça à tel moment, selon tel ton, il y a une cohérence littéraire. Ça, c'était avant de déposer le manuscrit à la maison d'édition. Donc, et puis, il y a la grande Janou Gagnon qui était dans la première mouture.
Oui.
Et puis Jean Durosier des Rivières pour la première mouture qui faisait 30 pages, qui m'a vraiment donné un bon coup, un bel élan. Mais là, le livre fait 170 pages à peu près. Donc, il y a un petit peu de ces gens-là dans chacune des pages d'une manière ou d'une autre.
Oui, oui. Et, oui, mais vas-y, je t'écoute.
Et puis surtout, la passion renouvelée de mes différentes plumes, de mes différents élans qui ont été fortement encouragés, notamment avec Claude Dauphin, je disais, mes chants en créole, j'aimerais bien les traduire en français. Et puis, non, mais Joujou, je peux pas te les traduire. Je dis, oui, mais parce que vous avez écrit un livre, vous traduisez si bien. Il dit, non, mais je peux pas traduire tes chants, je sais pas pourquoi tu as choisi ces chants-là, ces endroits-là.
Et
donc, il m'a rappelé que pour traduire des conversations que j'avais eues autrefois avec Mimi Barthélémy, ma grande amie, paix à son âme, et puis pour me rappeler que c'est par la porte poétique qu'on peut aller puiser les mots qu'il faut pour traduire l'intraduisible.
Wow.
Et cette pensée-là est valable non seulement pour les chants, mais aussi pour des endroits dans le texte où l'histoire est tellement terrible, c'est tordu ce qui s'est passé par moment. Donc il a fallu tomber dans la plume poétique pour que ce soit pour qu'on puisse au moins l'absorber.
Ouais, pour que ça nous caresse les oreilles. Et quand on le lit à voix haute, surtout pour que quand on l'ouvre et puis on le lit à voix haute, soi-même on s'entend et puis on se dit waouh, il suffit pas, on peut le lire sans ouvrir sa bouche, c'est bien sûr ça. Mais moi, j'ai pris l'habitude de lire mes romans aussi comme ça. Chez moi, une manière de pratiquer un peu, de travailler les cordes vocales.
Oui.
Quand je l'écoute, je m'entends, je le lis. Je me dis, oh, quelle force. Il y a quelque chose qui est là. Et quand tu es parti de... Vous connaissez Caraïbes, terre de compas, de reggae, de zouk, de salsa, de meringue, de groca, de tambour, de bataille, de lambi. Histoire raconte. Caraïbes, terre de Jacques, Stéphane, Alexis, Kéti Mars. Marie Scandé, France Fanon, Caraïbes, Terre Pacifique, Terre du Marron Inconnu. Ça, j'adore. Et puis, bon, ben, quand j'ai vu la liste de ces femmes héroïnes, ces femmes d'Haïti, héroïnes, guerrières, combattantes, Amazon, toutes ces femmes-là, j'ai dit, mais elle est allée chercher loin, hein?
Oui, parce qu'il y a, il y en a d'autres qui m'ont précédée. Je trouve nécessaire de faire ce travail de mémoire et je trouve honorable de nommer toutes celles qui m'ont précédée, tout au féminin. C'est bien d'honorer les héros. Nous connaissons quand même plusieurs d'entre eux, mais les héroïnes sont beaucoup moins connues.
On en parle très peu. Moi, personnellement, j'en connais pas. On ne parle que les Toussaint Louverture, les autres là qui ont combattu Napoléon, mais les femmes, ces femmes, ces noms que je vois ici, j'en connais même pas la fin. Merci à toi, grâce à toi, j'ai pu découvrir ces héroïnes d'Haïti.
Merci, elles étaient là.
Oui.
Elles étaient vraiment là.
Oui.
Elles n'étaient pas là pour faire de la tapisserie.
Ah non,
elles
étaient non.
Guerrières, elles avaient des armes pour se battre, elles avaient aussi la connaissance des plantes, elles avaient aussi les plantes qui ont servi non seulement à guérir, mais aussi à terrasser l'ennemi. Ensuite, il y avait de ces femmes qui venaient d'Afrique, qui étaient des chefs en Afrique, parce que quand on allait prendre les gens là-bas, on ne te demandait pas ton CV, hein, on te met là-bas. Donc, et ces gens-là qui ont été séparés de manière volontaire.
Oui, de leur famille royale.
Oui, parce qu'il ne fallait pas que des gens puissent communiquer et faire un putsch. Alors, ces gens qui étaient complètement séparés sont retrouvés et pour arriver maintenant au fur et à mesure sur cette terre-là, rencontrer d'autres qui naissaient sur place. Donc il y avait les Bossals qui venaient d'Afrique, il y avait les Créoles qui sont nés sur l'île, qui se passait des connaissances et puis qui devait échanger, communiquer et autour d'une langue commune inspirée de leurs langues ancestrales, aussi des langues autochtones, parce qu'on ne parle pas assez.
Oui, parce que les autochtones étaient déjà sur place aussi.
Oui, on les a exterminés carrément.
Oui.
Il en restait très peu.
Mm-hmm.
Mais le peu qui restait était très présent.
Oui.
Et donc, mélanger maintenant les Bossals, les Autochtones et les Créoles, leur savoir, leur détermination et leur véhémence, eh ben, avec un parfum au féminin, ça a vraiment fait une différence, non seulement au niveau de leur combativité, mais aussi de leur apprentissage. Elles ont appris beaucoup de choses à ces héros qui sont les arbres devant la forêt. Ça n'enlève rien à Toussaint Louverture, qui est un grand.
Mmh.
Mais vraiment, il y avait des Victoria Montou, il y avait... tout le monde connaît Anacaona. Tout le monde connaît la reine Anacaona.
Ah oh, oui.
Nomme,
et ce livre, ton livre m'a permis d'aller faire des recherches sur ces grandes guerrières, ces Amazones, ces combattantes, ces héroïnes-là pour approfondir encore mes connaissances, parce que j'ai dit merci à toi. Un dernier mot là pour te laisser partir, parce que ceux qui n'ont pas encore leur copie, allez-y, c'est déjà en librairie. Allez-y, cherchez votre copie là-bas. Vous allez tout de... Un dernier mot, s'il te plaît, avant de te laisser partir.
Alors, je remercie tout le monde de Planète Rebelle, tous mes lecteurs, lectrices, tous les collaborateurs, consultants, consultantes que je n'ai pas nommés aujourd'hui, et tous ceux que j'ai nommés aussi. Il y a Luca Palladino qui est maintenant responsable de Planète Rebelle.
Oui.
Il y a aussi l'île de Gorée, la ville de Dakar, qui m'ont permis de terminer les dernières pages du livre.
C'était pour ça même que tu t'es rendu au Sénégal.
Oui, c'est ça. Je suis allée sur la terre même de Sénégal pour finir les dernières pages. Et puis, lorsque j'ai eu fini, ben, c'est comme si c'était ma famille sénégalaise qui m'accompagne dans les derniers mots. Je leur dis merci, je leur dis honneur, respect. Je leur dis Djélé Djeff à mes ancêtres haïtiens. Aussi, je leur dis honneur, respect, merci. Et à toute ma famille plurielle du Québec, de long en large, du Canada francophone que j'ai sillonné, qui m'a fortement inspirée, tous ces auteurs, autrices qui m'ont précédée, eh ben, c'est un grand merci. Mes parents qui m'ont donné la soif d'écrire, de lire, la curiosité, et qui m'ont donné des bouts d'eux-mêmes, des bouts de vie, des bribes d'histoire que j'ai pu colmater,
oui,
dans l'histoire d'Haïti, qui n'est pas seulement celle d'Haïti, le pays géographique, mais qui est l'histoire de toutes les Haïtis, de la diaspora, de chacun, chacune, mais, et de toutes les Haïtis qui appartiennent à tous ceux, toutes celles qui sont intéressées
au
combat de liberté.
Merci beaucoup. Merci. Auprès, j'espère qu'on aura un Haïti champ de liberté 2.0.
Oui.
Allez, à bientôt.
Il faut venir au lancement le 22.
Je serai là.
Le 22 septembre à la librairie Racine,
oui,
à la Plaza Saint-Hubert. Ne manquez pas ça, s'il vous plaît. C'est quoi l'adresse déjà? Oh,
ça va, je vais en parler avant ça. Merci.
D'accord.
Merci beaucoup à toi, merci, et au plaisir de te réécouter. Merci.
Merci beaucoup.
À bientôt. Bye bye.
Au revoir, à bientôt.
Why are you coming for my life? Why are you no office to me shine, oh my? I beg you, take me off your mind. The bomb and grind my prayer line, vibrating high, meditating all the while. On a journey to always find the light, escaping darkness all the time. I know your head was in my smile. Love me, make me live.
Notre invité est parti. Voilà, là maintenant, reste à l'écoute. Bon, reste à l'écoute juste après la petite pause publicitaire. Voilà, Comic Book. Christian Lacasse avec moi déjà en studio. À tout de suite. Bye.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, on est déjà à la deuxième partie de l'émission, comme ça, comme je disais. Christian Lacasse est déjà avec moi en studio pour nous parler des comic books.
Monsieur Fulgence, comment allez-vous cette semaine?
Je vais bien, merci, content de te revoir en studio.
Toujours.
Et puis, bon, ben, tu vas nous parler du héros avant l'arrivée du super-héros, ces personnages héroïques qui vont aider à former le super-héros à la fin des années 30.
Exactement.
Tu m'apprends et tu nous apprends. Moi, personnellement, je savais ce que c'est que les comic books, mais la manière dont tu me fais découvrir d'autres facettes, c'est-à-dire même l'origine, même les choses. Alors,
ben c'est ça,
je te laisse aller, c'est pas bon, c'est pas moi.
Non, mais c'est ça.
Raison
c'est...
pour laquelle tu es là d'ailleurs. Ben, allez, vas-y, je te laisse aller.
Quand je dis super-héros, on pense tout de suite à Superman, c'est considéré comme le premier super-héros.
C'est ça.
Mais il y a plusieurs héros qui existaient bien avant lui. On les voit apparaître dans divers médiums à l'époque, comme les romans, les magazines, les journaux, même la radio.
Oui.
Et ensuite, ils sont apparus dans les comic books. Mais ces héros qui apparaissent avant ont des caractéristiques, et en fait, servent à établir les caractéristiques de base du super-héros qui va dominer l'industrie du comic book à partir de 1938 avec Action Comics numéro 1.
Oui, c'est pourquoi tu dis à la fin des années 30.
Voilà, voilà. Je vais vous parler de personnages. Il y en a que vous connaissez, ça c'est sûr, et il y en a que vous connaissez pas mal moins. Premièrement, on remonte il y a maintenant 110 ans, en 1912, avec Tarzan.
Nous n'étions pas nés.
Non, nous n'étions pas là, mais Tarzan, lui, était là.
Oui,
Tarzan, l'homme
encore,
de la jungle.
Voilà.
Qui a été créé par Edgar Rice Burroughs et qui fait sa première apparition dans le numéro d'octobre de 1912 du magazine All Story. Et par la suite, c'est adapté en roman en 1914.
1912?
Déjà,
1912. Tarzan là-bas, là, dans ce numéro. Oh, OK.
Mais c'est le même Tarzan qu'on connaît aujourd'hui.
Oui,
là.
C'est le même qu'on connaît. Ouais, c'est le Tarzan même. Là-bas qui a survécu jusqu'à maintenant, là. Roi de la jungle.
Et oui, exactement. Le premier comic book à mettre en vedette Tarzan est publié en 1947, donc beaucoup plus tard. Tarzan s'impose dès 1912 rapidement dans la culture populaire américaine, surtout à cause de deux adaptations cinématographiques en 1918, ensuite d'une multitude de nouvelles... Le cinéma humain.
Oui, en la fin de la Première Guerre mondiale. Quoi.
Voilà. Ensuite, il est adapté à la radio dans les années 30. Ce qui le rend intéressant en ce qui a trait aux comic books et aux super-héros, c'est que le personnage de Tarzan renferme plusieurs des caractéristiques du super-héros. Il est athlétique, le corps parfait. Il est courageux, il est loyal, il est totalement dévoué à Jane.
Ça fait
personnage
rêver pas
féminin.
Mal. Ça fait rêver pas mal de gens, hommes comme femmes.
Exactement. Et ce qui est intéressant avec Jane, c'est que le personnage de Tarzan est dévoué seulement à Jane, contrairement à d'autres héros qui accumulent les femmes de façon assez interchangeable.
Ah, donc tu me dis que... Il est fidèle.
Voilà, très fidèle. D'ailleurs, Jerry Siegel, co-créateur de Superman, a dit que Tarzan était une influence sur la création de Superman.
OK.
Autre héros qu'on connaît également, en 1919, Zorro. Zorro qui fait ses débuts dans le roman de Johnston McCulley, The Curse of Capistrano, qui a été publié en 5 parties entre août et septembre 1919 dans le magazine All Story Weekly. Et seulement un an plus tard...
Mais c'est des vieilles choses quand même, ça date pas d'aujourd'hui ces trucs-là, on pense que ça a commencé dans les années 50-60.
Exact, ça, mais, ça date de mais très c'est loin. Fascinant ouais. à quel mmh. point ça devient populaire rapidement, parce que seulement un an après sa création, le nouveau studio de cinéma United Artists adapte The Curse of Capistrano sur grand écran dans le film The Mark of Zorro en 1920, qui a été produit, coécrit et joué par Douglas Fairbanks, une des grandes stars d'Hollywood de l'époque. Le film, d'ailleurs, a été un succès commercial. Et à partir de ce moment-là, encore une fois, Zorro est un personnage qui s'impose dans la culture américaine. On écrit d'autres histoires, d'autres films. Et il fait sa première apparition dans les comic books dans Hit Comics numéro 55 en 1948. Zorro, lui aussi, a les éléments importants du super-héros, d'autres éléments que Tarzan que je nommais tantôt. Par exemple, il est l'homme masqué, donc avec costume, qui s'appuie sur ses compétences plutôt que ses pouvoirs, et qui utilise un moyen de transport personnel, son cheval Tornado, et il a une identité secrète qui fait contraste. Quand il est lui-même et non pas un héros, il est Don Diego de la Vega. Un homme assez inoffensif qui fait exprès pour paraître faible, mais quand il est Zorro, il est habile, charismatique, enjoué, séducteur. Tout le contraste. Et c'est le même contraste que Superman et Clark Kent, Bruce Wayne et Batman. Donc, ça fait partie du personnage de Zorro qui influence un peu plus tard. Autre personnage, lui, on le connaît un peu moins, surtout ici au nord des États-Unis, c'est Buck Rogers en 1929. Buck Rogers est un héros d'aventure et de science-fiction qui a été créé par Philip Francis Nolan, qui apparaît pour la première fois dans les journaux américains le 7 janvier 1929. Donc, c'est un comic strip. Par la suite, on le voit apparaître dans des journaux du dimanche, on en fait des livres, on l'entend à la radio, on le voit au cinéma et, un peu plus tard, à la télévision. Il apparaît pour la première fois dans les comic books en 1934, dans le troisième numéro de Famous Funnies, que je parlais de ça là, d'ailleurs la semaine dernière,
oui,
Famous
la semaine Funnies. Passée.
Et il tient l'affiche dans cette publication jusqu'en 1955. Pour vous situer, là, qui est Buck Rogers, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas.
Moi, je ne le connais pas.
C'est un homme qui est victime d'un accident. Il se retrouve en état d'animation suspendu pendant 492 ans. Il se réveille en l'an 2419. Et à partir de ce moment, il
2400?
Vit. C'est très précis quand même. C'est pas un chiffron, c'est très précis. À partir de ce moment-là, il vit des aventures intergalactiques.
Ces artistes avec leur fantaisie. Les artistes peuvent se permettre de tout. Hein.
Oui, ben voilà.
Les dates, les noms, les manchins et autres. Tu te dis, avec nous, en tant que... Quand on n'est pas artiste, cette fantaisie, on l'a pas vrai. Oui, on l'a, mais d'une autre manière.
Exactement.
Voilà,
et c'était, pour l'époque, c'était nouveau. C'est
comme la pièce musicale qu'on vient d'écouter avant que tu viennes en onde. C'est Love Me. Love, c'est L-O-W-E. C'est pas W, non. Mais l'artiste a écrit W-E.
Ouais.
Love Me. C'est V-E.
Exact.
Elle a préféré W-E.
Non, c'est un choix artistique.
C'est un choix. Voilà. C'est le fantasy.
Buck Rogers, c'est l'un une des premières séries à imaginer ce qui était pour être le futur et à présenter l'espace comme toile de fond pour l'aventure. C'est à cause du personnage que dans la société américaine des années 30, c'est ce personnage qui permettait d'imaginer ce que pourrait être la conquête de l'espace, le design des vaisseaux spatiaux, les combinaisons spatiales, qu'est-ce que ce serait rencontrer des créatures extraterrestres. Donc, il a vraiment marqué l'époque. Il a inspiré plusieurs films et il a inspiré également plusieurs personnages, dont Flash Gordon à partir de 1934. Autre personnage encore plus important, The Shadow en 1930. Et ça, c'est assez spécifique, c'est assez spécial.
Qu'est-ce qui donne sa spécificité?
Alors, il a été créé en 1930 en version radiophonique.
Oui.
Puis en 1931...
Il n'y avait pas de télé d'images, machin, comme on est bombardé d'images aujourd'hui, de toutes les façons, à cette époque.
Mais ce qui est spécial...
La radio était populaire.
Oui, les radios romans.
Oui.
Ça, il y en avait beaucoup. Donc, en version radiophonique en 1930 et en version imprimée en 1931. Ce qui s'est produit, c'est que pour stimuler la vente du magazine Detective Story, la maison d'édition Street & Smith Publications décide d'adapter les histoires du magazine en série radiophonique. Donc, on établit que les histoires de la série devraient être racontées par un mystérieux narrateur avec une voix sinistre. on cherche un nom à lui donner et on trouve finalement The Shadow. Donc, à partir du 31 juillet 1930, The Shadow devient le narrateur de l'émission de radio Detective Story Hour. Les concepteurs pensaient que c'était pour stimuler les ventes du magazine Detective Story, mais pas du tout.
Oui.
Au contraire, les auditeurs trouvaient que le narrateur était plus convaincant que les histoires qu'il tentait de raconter. Et les auditeurs allaient dans les kiosques à attention, journaux plus. Afin de se procurer le magazine. Avez-vous le magazine de Shadow?
Oui.
Mais il n'existait pas.
Il n'existait pas.
Mais il était...
narrateur plus convaincant que les histoires qu'il essayait de raconter aux
voilà.
auditeurs.
Et donc, à cause de la demande, la maison d'édition décide de produire des histoires du personnage de Shadow.
Il fallait sauter, prendre la balle au bon.
Et justement, voilà. Un an plus tard, en 1931, The Living Shadow, la première aventure... du personnage de The Shadow.
C'est le narrateur qui a donné cette opportunité. Voilà.
Et vous imaginez la puissance de la voix de ce narrateur? Je t'imagine comme la voix de Shadow, mon cher Fulgence. Je t'imagine, absolument. Donc, The Shadow, pourquoi il est important? C'est le premier personnage avec des super pouvoirs.
Oui.
Son pouvoir était d'obscurcir l'esprit des hommes. C'était un des premiers justiciers de la nuit qui terrifiait les criminels au nom de la justice. Encore une fois, comprend plusieurs caractéristiques du super-héros, l'identité secrète, la violence aussi, parfois très graphique. Faut préciser qu'avant The Shadow, la représentation sous forme de dessin de l'action dans les bandes dessinées et de la violence, disons que c'était assez bon enfant, c'était amusant, voire farfelu. Avec The Shadow, beaucoup plus direct, beaucoup plus vrai. On parle de meurtre en série, d'exécution. Mais on ne montre pas de sang, par contre. Le sang est interdit dans les publications.
À l'époque.
Ouais. Autre caractéristique de The Shadow, on retrouve des acolytes qui l'aident avec ses intrigues et la présence de super vilains. Et encore une fois, un autre qui a une grande influence, par exemple, sur le personnage de Batman. Et une des phrases fétiches de la version radiophonique qui fait son chemin dans la culture populaire américaine à l'époque, ça se disait comme suit. « Qui sait quel mal se cache ?» dans le cœur des hommes, The Shadow le sait.
Wow.
Encore une fois, je t'imagine le dire.
Oh là! Les âmes sensibles s'abstenir. ça peut provoquer, chambouler les gens. Si ça se dit d'une manière... Bon.
Absolument.
Voilà, c'est... Non, je comprends ce
c'est
que tu veux dire.
C'est spécial quand même.
Ouais, c'est spécial.
J'y vais rapidement. Un autre personnage important, Mandrake. Le magicien, en 1934. Personnellement, je le connaissais très peu. Ça a commencé dans un comic strip en 1934. Il y a des historiens qui disent que Mandrake et non Superman est le premier super-héros. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il apparaît en premier lieu dans un comic strip et non dans un comic book, mais je comprends pourquoi on dit que c'est le premier super-héros parce qu'il a vraiment la panoplie de caractéristiques du super-héros. Par exemple, premièrement, il a un costume, il a un tuxedo, chapeau haute forme, une grande cape noire, baguette à la main, il a des super pouvoirs, il a des ennemis, des alliés, comme pouvoir par exemple, il fait un geste hypnotique pour terrifier ses adversaires, il y a plusieurs méchants différents, des gangsters, des scientifiques fous, des extraterrestres, mais... Très important avec ce personnage, qu'on connaît peu, mais quand même, ça mérite d'être connu. Il est accompagné d'un partenaire qui est invulnérable. Il s'appelle Lothar. C'est un prince africain. Donc, Lothar est un des premiers héros noirs qui lutte contre le crime à apparaître dans la bande dessinée américaine. Et c'est un des premiers personnages noirs à être traité avec respect. Et non pas...
Le petit serviteur.
Voilà.
On débris des morceaux de pain sous les tables pour manger.
Exact.
Comme il rappelle une chanson de Francis Cabrel.
Il est légal de Mandrake. Et aussi, Mandrake vit à Xanadu, un manoir high-tech au sommet d'une montagne de l'État de New York. Donc, il a sa propre base d'opérations sophistiquée.
Wow.
Il y a plusieurs super-héros qui adoptent cette même formule. On pense à Batman, la Batcave. Superman, la forteresse de solitude.
Oui.
Tout ça. Bon, je termine là-dessus. Il y a d'autres mentions.
La dernière minute, pour conclure.
Mention honorable à Dick Tracy en 1931, le premier détective de la bande dessinée américaine. Aussi The Lone Ranger et Tonto en 1933 qui débutent à la radio et qui amènent le genre western au comic book. Et sans oublier, Sheena, la reine de la jungle, en 1938, qui a été créé en Angleterre en 1938, qui a été amené aux États-Unis vers la fin de l'année, et c'est le premier personnage féminin à avoir sa propre série à partir de septembre 1938, donc quelques mois après la création de Superman. Et en parlant de personnages féminins, la semaine prochaine, je délaisse un peu le côté historique des années 30, tout ça. Je vous fais une analyse d'un personnage féminin.
Quand je venais en studio, je me suis dit, j'espère qu'il va, il va nous nommer quelques fois, ou bien bientôt, quelques personnages féminins,
oui,
en dehors de Jane et autres. Là. Bon, ça, c'était pas son propre, sa propre série.
Ben, voilà. C'est ça, la semaine
c'était
prochaine...
C'était la partenaire de...
Oui.
De...
Ah non, c'est un personnage vraiment secondaire.
Voilà, donc...
La semaine prochaine...
J'ai bien hâte.
Oui, c'est un personnage qui a sa propre série, qui maintenant a même sa propre série télé. Je vous parle de She-Hulk. La semaine prochaine.
Merci bien, toi.
Ça fait plaisir. Ça.
Allez, bon week-end.
Bon week-end à toi, Phil Jones.
Prends soin de toi.
Merci beaucoup.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ouais. Hello, this is Greg Reporter, and this is Take Me to the Alley, one mic, one take. Well, they build their houses in preparation for the king, and they line the sidewalks with every sort of shiny thing, but they will be surprised. When they hear him say, take me to the alley, take me to the afflicted ones, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, I am your friend. Come to my table. Rest here in my garden. You pardon, you will have a pardon. Take me to the alley, take me to the afflicted ones, take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, oh, I am your friend. Come to my table. Here in my garden, you will have a pardon.
to the alley. Take me to the afflicted one. Take me to the lonely ones that somehow lost their way. Let them hear me say, I am your friend. Come to my table, rest here in my garden. You will have a pardon. You will have a pardon. Rest here, lonely one. Hungry one, tired one, rest here in my garden. Whoa. Whoa.
Gregory Porter, Take Me to the Alley. Voilà, ouais, ça c'est un monsieur qui est passé ici cette année au Festival du Jazz. C'était beau son spectacle, il fallait les absents ont eu tort. Hein. Alors je vais terminer en beauté en littérature, ou bien je vais parler rapidement des journées de la culture 2022. La programmation est en ligne, pour ceux qui ne le savent pas, allez-y voir la programmation, allez-y sur le site Journée de la Culture, et puis vous allez trouver toutes les infos là-bas. Vous pouvez enfin, c'est la 26e édition d'activité. Vous planifiez dès maintenant le menu de la dernière fin de semaine de septembre. Vous allez être bien gâtés. C'est partout au Québec, en personne, en ligne. Vous allez vous vivre vraiment une incursion inoubliable dans le processus de création et de savoir-faire des artistes. Allez, c'est rendez-vous le vendredi 30, samedi 1er et dimanche 2 octobre. Le 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre prochain. Alors, c'est parmi les... cette année, le thème, c'est... Haut et fort. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. Allez-y sur le site là-bas. Je vais revenir sur ça de temps en temps comme ça pour vous faire découvrir la programmation de cette fin de semaine de culture, journée de la culture. Culture pour tous. Yeah, la programmation est en ligne. Allez-y découvrir ça là-bas. Voilà, et puis je vais parler aussi du Festival du cinéma de la ville de Québec qui vient de prendre fin. Depuis le 11, ça a été du 8 au 11. Mais j'en parle parce que la Fabrique culturelle .tv, cette plateforme numérique pour partager la culture de tout le Québec, tout ce qui s'est passé là-bas se retrouve en ligne depuis le 13 jusqu'au 9 septembre. Alors, les amoureux de la culture, vous allez voir, si vous aimez la danse, il y a beaucoup de groupes qui dansent là-bas, voyez, qui n'ont jamais vécu cette sensation de vouloir se mouvoir spontanément en observant à l'écran une chorégraphie, une nouvelle danse, un mouvement inédit ou simplement un geste ludique. Donc le mimétisme dont chacun de nous, que chacun de nous se fait faire presque tous les jours. Quand on voit les gens danser, on essaie de, pas d'imiter, mais ça nous prend quoi. C'est comme s'il y avait une liaison qui se créait. Voilà. Et puis on se met à bouger un peu, soit de la tête, soit... des petits mouvements, voilà. C'est s'explique par le fait que la danse, c'est l'un des moyens de communication les plus universels qui soit au monde. Lorsque le corps s'exprime, nul besoin de paroles, ça dit tout. Voilà. Moi, je sais pas, peut-être c'est pour ça que j'adore la danse aussi. J'aime parler, mais pas tout le temps. Voilà, des balbutiements du cinéma et d'avant-garde en passant par un vidéoclip. Allez-y sur le site de la Fabrique culturelle, en un seul mot, hein, .tv. Vous allez voir tout ce qui s'est passé là-bas durant ce festival du cinéma de la ville de Québec. C'est depuis le 13 jusqu'au 19 septembre. Si vous n'allez pas voir ça, ils vont les enlever. Et puis voilà, c'est ce qui fait que je tenais à tout prix en parler, même si c'est fini. Voilà. Et puis au musée des Beaux-Arts, parce que si je veux parler des nouveautés littéraires, le temps ne suffira pas. J'y reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Voilà. Au Musée des Beaux-Arts de Montréal, nouvelle exposition Diane Arbus, photographie du 956 et du 971, en 15 ans à peine, la photographe américaine Diane Arbus a produit quelques-unes des photographies les plus fascinantes du XXe siècle, regroupant plus d'une centaine d'épreuves à la gélatine argentine. Cette exposition témoigne de sa vision particulière et avant-gardiste, ainsi que de l'envoûtante originalité de son regard. À découvrir, c'est depuis le 15, ça dit depuis hier, aujourd'hui c'est le 16, donc septembre bien sûr. Et puis, dernière semaine pour visiter Nicolas Parti, le Suisse, l'heure mauve. C'est l'exposition phare qui a attiré déjà plus de 250 000 visiteurs et va fermer ses portes le 16 octobre prochain, dans un mois. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, faites la petite promenade là-bas sur la rue Sherbrooke-Ouest. Vous allez découvrir l'œuvre de Nicolas Parti, ce jeune peintre qui est encore en vie, il n'est pas mort, attention. Parce qu'il y a des gens qui se font exposer, ou bien on parle d'eux souvent, on les voit dans les musées quand ils sont déjà morts. Maintenant, lui, de son vivant, il profite bien de sa notoriété et puis de ses œuvres, quoi. Donc, pour découvrir l'univers du fantastique Nicolas Parti, c'est le moment de programmer votre visite là jusqu'au 16 octobre. C'est la fin. Ils ne vont plus prolonger là, c'est fini cette fois-ci. Et puis, demain samedi, performance au Musée des Beaux-Arts aussi, samedi 17 septembre à 15h30. Il y a My Urban Nature, c'est un rendez-vous sur l'avenue du musée pour assister à My Urban Nature. C'est une performance de la chorégraphe canienne Eaka Barbara Cano Caneratoni Diabo. Celle-ci sera accompagnée de 6 danseurs et d'une chanteuse de gorge autochtone. Ne ratez pas. Voilà. Et puis, il y a une conférence le mercredi 28 à 17h30. Pratique contemporaine du pastel dans le cadre de l'exposition Nicolas Parti. Ça, c'est l'heure mauve. Le musée invite l'historienne de l'art Isabelle Masse à discuter de la technique du pastel et des liens que l'œuvre de Parti tisse avec l'histoire de ce moyen d'exposition. Et puis, quelque chose de grandiose encore, les 24 et les 25 septembre à 14h30. L'an 8 de l'intégrale des cantates de Bach est lancé. Ce sont Raphaël Payari, c'est le nouveau maître de l'OSM, et les musiciens de l'OSM qui vont ouvrir le bal de cette dernière année de l'intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach. Voilà, ce fabuleux périple musical entrepris il y a plus de 8 ans par la salle Bourgi, pour ce premier concert. 3 merveilleuses cantates sont au programme. Hein. Voilà. BWV 171, 101 et 19. 24-25 septembre à 14h30. Bon, la semaine prochaine, je vais vous parler un peu des nouveaux littéraires, des livres qui sont sortis depuis quelques jours, depuis le 12 septembre. C'est parce que le temps ne permet pas. Merci à toi, Maurice. Merci de ta complicité. Et merci à Juju Turenne qui est venu parler de son livre et à Christian Lacasse qui est venu nous parler de comic book américain. Merci à vous, chers fidèles auditeurs. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur les ondes de Canal M. Sur ce, prenez soin de vous, de vos minutes. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine et ciao.